Bonjour à tous, heureux de vous accueillir dans cette émission qui empêche de polluer, de réchauffer, de penser en rond avec aujourd'hui à la technique Anne-Laure Cochet et Isabelle Collet et assistée de Sophie Ledoré, de Jean-Christophe Pinaza, c'est Maïté Adam qui réalise cette émission. Tom Boonen, j'ai appris ça là, comme vous, effectivement, le cycliste, il n'a pas pris de cocaïne, c'est un cycliste, il a simplement sniffé la ligne blanche qui était sur la route, voilà, c'est tout, et oui. Alors, petite humeur, donc, avec pour commencer une balade dans les forêts du parc naturel régional du Morvan, où j'étais pas très loin de l'Orme en ce début de semaine, et où on nous présentait donc la collection printemps-été. Et au-delà des coupes à blanc tout à fait dévastatrices, eh bien, quelle sera la tendance cette année? Que portera-t-on dans les bosquets branchés? Feuillage vertilleul, jeune chêne, hêtre ou merisier fringant, vieux sapin ou ton sur ton, hein? Alors, pas de carton d'habitation, mais c'est vrai que le coin est superbe pour voir aussi les jacinthes sauvages bleues, le compagnon rouge, les stellaires blanches pour ceux qui s'intéressent aux plantes. 15 jours de talus en fait, et c'est ouvert à tous. Nature en effervescence, les enfants aussi. Et oui, le petit là-bas, vous voyez, il fait sa croissance. Notion donc difficile à extraire des têtes. Dans la forêt aussi, où tout monte, où tout grandit autour de vous. Croître, on va vous dire, c'est la vie. Sauf que les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Et contrairement aux disciples de Bernard Madoff, eh bien, les arbres ont compris que les meilleures choses ont une fin. La preuve par l'exemple aussi avec l'affaire Bœuf aux hormones contre Roquefort. Et oui, ce vieux contentieux États-Unis-Europe qui se termine par un grand ouf de soulagement parmi les brebis du Larzac, même si leur fromage reste un produit de luxe taxé à 100% outre-Atlantique. Alors en attendant, le Mac Roquefort, c'est-à-dire un nouveau sandwich vite avalé, vite oublié, qui permettra d'en profiter pour écouler les dizaines de milliers de tonnes de viande de bœuf américain, garantie, sans hormones, et qu'on nous promet en échange. Eh bien, en attendant tout ça, dans les Pyrénées, la vie est belle aussi. Ah, Vlatipa, que l'oursonne du même nom, parce qu'elle s'appelle Avla, oui, nous a donné deux beaux bébés oursons, des petits qui sauront, on l'espère, se faire accepter des habitants de la région, c'est-à-dire chasseurs, éleveurs, promeneurs, conducteurs de 4x4, que sais-je, et nous réconcilier avec l'idée que la nature, et oui, on peut vivre avec. Carnet rose, toujours, on continue. Mercredi, c'était le Grenelle de la mer qui a accouché d'un premier accord, on verra ce que ça donne, hein, entre les syndicats de pêcheurs et France Nature Environnement sur la nécessité, bah oui, de sauver ce qui reste de poissons dans les océans. Ce qui n'est pas encore le cas des trésors cachés dans les profondeurs de l'Arctique et d'ailleurs. Comprenez gaz, pétrole, minerais, parce qu'il y aurait là-dessous largement de quoi refaire une santé à la sphère financière tout entière. Et à ce sujet, on va rappeler aux candidats au piratage légal des dernières ressources de la planète que la grande braderie organisée par la Convention des Nations Unies sur le droit de mer ferme ses portes mercredi prochain. Donc attention, après il sera trop tard pour déposer votre dossier à l'ONU. Canada, Russie, Norvège, France, Argentine, Chili et j'en passe. Et pendant que chacun plante ses petits drapeaux sur la carte des océans, eh ben on fait chauffer les calculettes à bonus dans les quartiers généraux des compagnies minières et pétrolières. Corsaire des grands fonds, voilà un métier d'avenir. Et ce métier, ben on ne va pas vous en parler hein, dans études et environnement dans cette émission. On va vous présenter des exemples d'études, de cursus environnementaux donc pour les jeunes. Et on oscillera, on va dire, entre enthousiasme et réalisme hein, sur ces emplois qui sont divers. Voilà, donc il y a des choses qui fonctionnent, d'autres c'est un peu des voies de garage. On ne pourra pas balayer les 800 formations qui existent. C'est absolument impossible avec Elisabeth Laville et puis donc Jérôme Balina, que l'on va rejoindre dans quelques instants. Mais on vous donnera en tout cas quelques pistes. Et comme c'est un magazine aussi de nature, eh bien, il est là. Jean-Marie Pelt est avec nous. Jean-Marie Pelt, bonjour.
Bonjour Denis, bonjour à tous. Punaise.
Punaise, absolument. P comme punaise. Les insectes lisent le journal. Moi, j'étais très intrigué quand j'avais vu cette histoire dans les langages secrets de la nature aujourd'hui en livre de poche. Alors, racontez-nous. Punaise, les insectes lisent le journal. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est que cette histoire?
C'est une très belle histoire, en fait. Les insectes font des métamorphoses. Ils se transforment. Ils sont d'abord à l'état larvaire, à l'état de chenille, etc. Et puis à un moment donné, ils deviennent l'insecte parfait. Il y a deux types d'hormones qui conduisent ces opérations. Il y a l'exdisone ou les exdisones, qui sont des hormones qui permettent à l'insecte, à un moment donné, de ne plus être une larve, mais de devenir un insecte parfait. Et puis, il y a ce qui contrebalance l'effet de l'aiguisonne, ce sont les hormones dites juvéniles, qui, au contraire, gèrent les métamorphoses successives avant que l'insecte devienne parfait. Et qui, s'il y en a trop, vont l'empêcher de devenir parfait. Il restera perpétuellement, vaguement imparfait. Bon, quand on sait ça, on comprend ce qui s'est passé à propos d'un chercheur tchèque qui s'appelle Slama. Ce chercheur a fui son pays en 1964 parce qu'il a fui la botte soviétique. Il s'est réfugié aux États-Unis, à Harvard, il n'a pas été n'importe où, et il a amené avec lui les punaises sur lesquelles il travaillait. Et la punaise en question s'appelle la punaise européenne. C'est un insecte qu'on connaît, qui est vaguement verdâtre, c'est un insecte bien connu. Alors il arrive à Harvard, et puis il recommence à travailler sur ces punaises. Alors ces punaises, elles font 5 métamorphoses. Et à la 5e, il se transforme en punaise. Avant, c'est des larves. Voilà, dit pas qu'à Harvard, ben, il a fait 6 métamorphoses.
C'est quoi, c'est l'air du pays, non ? Je sais pas ce que c'est. Sentiment de liberté.
Plus extraordinaire encore, tout d'un coup, ils ont fait 7 métamorphoses.
Ah oui.
Alors, il ne voulait pas devenir adulte. Alors, il s'est dit, mais ce n'est pas possible. C'est qu'il y a un effet qui ressemble à l'effet des...
Des adolescents qui veulent rester, enfin, c'est ce phénomène Tanguy, vous voyez, voilà. Pour la punaise, qui veut rester chez elle très longtemps, au stade de encore un peu larvaire.
C'est ça, tout à fait, c'est exactement ça, elle ne veut pas devenir adulte.
Et non.
Alors il a dit, c'est probablement qu'il y a peut-être à quelque part un produit qui contient de l'hormone juvénile ou un analogue de l'hormone juvénile, mais alors où ? Alors il a regardé les bouteilles dans le laboratoire. Si on n'avait pas répandu, et parti par là, des substances. Puis alors, il a passé tout en vue. Puis finalement, les punaises étaient dans des boîtes avec du papier en dessous. Alors, il s'est dit, si c'était le papier ? Alors, il a étudié d'où venait le papier. Il avait déjà su que dans l'IF, il y avait des substances assez proches de l'hormone juvénile. Et il s'est dit, peut-être que dans le bois avec lequel on a fabriqué ce papier, il y ait de telles substances. Alors on a demandé aux fabricants de journaux, parce que c'était des journaux, quel bois ils utilisaient. Et alors il a appris que le bois qu'ils utilisaient le plus fréquemment, c'était un sapin, le sapin baumier. Alors on a étudié le sapin baumier. Et on a trouvé dans le sapin baumier la juvabione, qui est une substance qui a les mêmes propriétés que l'hormone juvénile, donc c'était le papier qui était responsable. Et alors il a fait ensuite, pour se marrer, des essais tout à fait marrants. Il a pris le Times de Londres, et il a mis les punaises sur le Times de Londres, elles ont fait 5 métamorphoses, parce que ce n'était pas du sapin baumier. Il a pris le New York Times, alors là... Elles ont fait 6 et parfois 7 métamorphoses. Oui. Et comme il était tchèque, il a pris le Rude Pravo, qui est le journal tchèque. Elles ont fait 5 métamorphoses. Donc, les punaises lisaient le journal. Voilà, c'est une belle histoire.
Bien sûr. Merci beaucoup, donc, oncle Jean-Marie, nous avoir raconté cette histoire de punaises. Et on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir, Jean-Marie.
Au revoir, Denis. Au revoir à tous.
Oh, libellule si délicate. Oh les mésanges, petites pattes, gentil coquelicot, pardon, chardon, et le noble ver de terre, pardon, le jour se rêve dans nos bépines, les enfants. Chevreuil lancé au-dessus des fleurs, chaude perdrix au tout petit cœur, écureuil renard, pardon vipère, pardon la pluie, pardon la terre, le jour se rêve dans la nature, les enfants, le vent les aime, le vent les aime. game, beau citron jaune. Pardon la flore, pardon la faune. Le jour se rêve sur les légumes, les enfants sur le bitume.
Royal n'a rien inventé, hein. Souchon demandait pardon à la Terre, évidemment, bah oui, c'est comme ça. On parle donc d'études d'environnement et de métiers donc avec nos différents intervenants. Coup de loupe donc sur ces différents cursus qui, on l'espère, ne feront pas quand même de nos jeunes des chômeurs diplômés, parce que tout ceci va de la gestion de la faune sauvage à l'aide à la maîtrise d'ouvrage dans un bureau d'études, d'un master de risque en santé dans le domaine du bâtiment à responsable de station d'épuration. Donc on le comprend très bien, la gamme et les possibles sont extrêmement vastes. Donc sur quoi débouchent ces formations ? Les propositions de travail surtout suivent-elles, voilà. Certes, un jeune sur cinq rêve de travailler dans l'environnement, mais parfois c'est un peu moins bucolique peut-être que les aventures de Nicolas Hulot. Donc c'est un maquis qui est quand même assez, assez incroyable. Là, on a un peu improvisé donc avec deux jeunes garçons. Brice Lemaire, bonjour à vous.
Bonjour.
Alors vous avez 24 ans, Brice. Alors, qu'est-ce que vous avez fait ? Est-ce que vous êtes ingénieur en agriculture ? Et racontez-nous un peu votre parcours.
Alors j'ai eu un parcours assez varié. Je suis parti pendant ma formation. Je suis parti pendant 6 mois en Australie,
oui,
en forêt tropicale.
Mmh.
Après, je suis parti, j'ai arrêté pendant un an.
Vous avez travaillé sur l'élimination des plantes invasives, hein,
ouais,
en forêt tropicale.
Voilà, ouais. Il y a des gros problèmes de plantes invasives en Australie. Et du coup, voilà, je travaillais là-dessus. Il y avait des gros programmes de lutte contre les plantes invasives. Après, je suis parti pendant un an à Madagascar,
mmh,
avec deux amis, sur un projet aussi où on a replanté un verger, on a travaillé avec des collégiens en pleine brousse, on était enseignants. Donc voilà, pendant un an. Et puis ensuite, je suis parti pendant 6 mois encore dans ma formation en Suède,
oui,
là où j'ai suivi des cours en gestion des espaces naturels et gestion de l'eau, pour enfin arriver à mon mémoire de fin d'études qui était sur l'agriculture biologique et les trames vertes et bleues, les programmes de trames vertes et bleues.
C'était effectivement ces fameux corridors biologiques.
Voilà, exactement.
Pour remailler ce territoire. Donc vous avez votre diplôme d'ingénieur en agriculture à l'Institut Polytechnique la Salle Beauvais.
Ouais.
Et alors, donc aujourd'hui, est-ce que vous en êtes ?
Eh bien aujourd'hui, donc j'ai passé mon mémoire de fin d'études fin septembre. Et voilà, ça fait donc 6 mois que je cherche du travail. J'ai passé beaucoup de temps à chercher du travail,
ouais,
à postuler, à prendre beaucoup de refus.
Et donc, ça ne rend pas encore, quoi.
Et non, ça ne rend pas. J'ai vraiment galéré.
Ouais.
Mais en fait, j'ai postulé donc dans les parcs naturels régionaux, mmh, conservatoires des espaces naturels, etc. Parce qu'ils cherchent apparemment quand même des ingénieurs.
Alors ça, on va en parler. Effectivement, ça, c'est assez important. Pierre Châtelon aussi, donc, à nos côtés, qui est un peu plus jeune. Hein. Vous êtes, oui, vous avez 21 ans et demi. Vous me disiez, vous avez et demi. Vous savez, c'est quand on a 8 ans. On est 8 ans et demi. Ben non, vous y avez 20 ans et demi. Deuxième année de Paritech Agro. Qu'est-ce que l'on fait à Paritech Agro ?
Agro-Paritech,
pardon.
Agro-Paritech.
Je vais dans le désordre.
Ouais. Alors ben, moi, j'y suis arrivé plus par goût de la nature et de la protection de l'environnement. Et c'est vrai qu'à force, avec cette formation qui est très généraliste, on découvre plein de sujets qui sont liés à la protection de l'environnement, donc que ce soit de l'agriculture, de la gestion de l'eau, de la gestion des déchets. Et on apprend à réfléchir les choses dans l'ensemble, dans la globalité, pour essayer de comprendre qu'une décision qu'on peut être amené à prendre plus tard va impacter des domaines très différents. Mmh. Et parfois, une décision qui sera bonne, qui aura un bon impact sur un domaine, peut avoir des impacts très négatifs sur d'autres. Et donc, c'est ça qu'on essaye de voir. Et...
Les effets papillons à votre niveau, quoi. Ça
voilà.
Fait ça, mmh. Bien sûr. Non, mais c'est tout à fait intéressant. Donc, vous interviendrez, bien sûr, dans les autres au cours de cette discussion. Je vais me tourner du côté de Toulouse, puisque nous attend au MOUV. Et je remercie nos amis du MOUV d'avoir gentiment improvisé Jérôme Valina. Jérôme, bonjour à vous.
Bonjour.
Alors, vous avez fait beaucoup de travail sur l'information sur les métiers. Vous-même, d'ailleurs, vous travaillez bien sûr aujourd'hui. Vous avez créé votre entreprise. Mmh. Vous avez un bac agricole que vous avez eu dans l'Aude. Après, un DEUC de biochimie à Montpellier, licence et master d'écologie d'écosystèmes. Un DESS d'aménagement intégré des territoires. Vous êtes un spécialiste aussi dans l'agroforesterie. Et donc, vous faites depuis longtemps de la veille sur les formations. Alors, Jérôme, c'est intéressant parce que donc on a eu ces témoignages. Et je le disais, vous êtes un peu une espèce de tour de contrôle. Vous n'avez pas la prétention, évidemment, de voir les 800 formations qui sont assez énormes. Hein, je rappelle, on en a quand même plus de 400 qui sont au-dessus de Bac plus 2 et Bac plus 5. Mais quels sont les critères pour s'y retrouver, s'il vous plaît ?
Alors effectivement, il y a un foisonnement de formations. Depuis quelques années, ça s'est un petit peu accentué, notamment avec les masters qui ont créé des spécialités et des parcours. Ce qui est intéressant d'un certain côté, puisque ça permet de spécialiser fortement les cursus et donc les diplômés, puisque le secteur environnemental, qui est en fait un champ beaucoup plus large, hein, dans lequel les métiers de la nature ne sont d'ailleurs qu'une partie, c'est important de rappeler, hein, de ne pas associer métier de l'environnement à uniquement métier de la nature, c'est une contre-vérité. Donc il y a par contre une diversification très très importante des métiers, des cursus, et qu'on retrouve un petit peu maintenant dans l'offre de formation. Donc pour s'y retrouver, je me suis amusé là ce matin en allant contacter mon ami qui est Google.
Hein. Bien sûr,
je travaille beaucoup avec mon collaborateur.
On connaît celui-là. Oui.
Voilà, il faut pas l'oublier. Donc
vous avez tapé mots, vous avez tapé environnement.
Voilà, alors j'ai fait plusieurs recherches. Hein. Il y a des méthodologies, on n'a pas trop le temps de détailler tout ça, mais si on tape formation environnement, hein, tout ça simplement, on a plus de 2 millions de réponses. Évidemment, c'est pas 2 millions de formations, hein. Il y a de la redondance, etc. Mmh. Si ensuite on saisit formation énergie renouvelable, là on réduit le champ, on n'a plus que 500 000 réponses. Et si on tape licence professionnelle énergie renouvelable, on est à 70 000.
D'accord.
Et puis si on tape licence pro énergie renouvelable entre guillemets, c'est-à-dire qu'on dit à Google de rechercher spécifiquement cette demande, on n'est plus qu'à 82 réponses. Tout ça pour dire que, en fait, l'information foisonne, mais il y a des méthodes aussi pour y accéder.
Techniques. Il faut déjà mettre à la fois des mots concrets sur ce que l'on veut faire, en tout cas ce que l'on pressent.
Oui.
Et après, ces mêmes mots, évidemment, on les mettra sur Google ou ailleurs. Mais,
tout à fait. Donc, en amont, en fait, ce qu'il faut faire, c'est mettre des mots sur les images, en fait, que vous, auditeurs, qui souhaitez un jour travailler pour l'environnement, avait dans l'esprit. Parce que chacun, derrière le mot environnement, qui est une construction sociale, met des images très spécifiques.
Alors, ce que l'on disait tout à l'heure, c'est qu'on sent bien que pour beaucoup de personnes, et ça se comprend parfaitement parce que c'est un peu la partie émergée, on a envie d'être protecteur de la nature. Mmh. Bon, les demandes d'ailleurs sont assez claires parce que vous avez un site où vous avez beaucoup de gens qui se baladent dessus. L'écologie de la biodiversité arrive avec 45% en tête. Hein, donc.
Voilà, bon, c'est pas un observatoire absolu, hein, c'est relatif. Il y a 500 000 personnes par an, mais c'est pas toute la demande. Mais j'arrive à voir que les pages, le guide des formations, les rubriques les plus consultées, effectivement, pour moitié, c'est écologie, biodiversité, avec des questionnements sur les métiers, notamment. Arrive ensuite un secteur un peu moins connu qui est, on va dire, la qualité et sécurité environnement, suivi de très près par l'énergie, qui est en train de monter en charge, notamment sur le plan économique, hein, en termes d'emploi aussi. Puis des filières autour de l'eau, hein, classiquement, qui est toujours très, très recherchée. Des nouvelles filières aussi dans ce qu'on peut appeler l'agri-environnement, qui n'est pas forcément une formule terrible, parce que je crois, étant de formation agricole, que les premiers défenseurs en nature sont peut-être les agriculteurs, du moins sur les pratiques que l'on avait auparavant.
De toute façon, il y a 52-53% du territoire qui est géré aujourd'hui par des agriculteurs qui doivent représenter 3% à peu près de la population active, enfin, à un pouillème près. Alors, une femme qui connaît aussi bien ces sujets, qui a écrit d'ailleurs un ouvrage qui s'appelle « Un métier pour la planète et surtout pour moi », c'est Elisabeth Laville, qui est la fondatrice d'Utopie, donc qui a été pionnière, elle aussi, dans ce cabinet de conseil en développement soutenable, qui intervient régulièrement dans l'émission. Elisabeth, bonjour à vous.
Bonjour Denis.
Vous êtes à la Tour du Valat. On va faire un petit éclairage sur la Tour du Valat, parce que aussi ils font un sacré boulot. On est en Camargue. Qu'est-ce que l'on fait à la Tour du Valat?
Eh ben alors, en fait, la Tour du Valat est une fondation qui a été créée dans les années 50 et qui se consacre à la connaissance et la conservation de ce qu'on appelle les zones humides en Méditerranée. Donc tout ce qui est qui a l'air comme ça de loin un peu, on ne sait pas trop à quoi ça sert, les marécages, les marais, les zones humides. Et en réalité, ça sert énormément puisque c'est l'écosystème vivant qui rend le plus de services à l'humanité, en termes de filtration des eaux notamment, des pollutions, etc. Et paradoxalement, c'est aussi celui qui est le plus détruit d'ailleurs. Donc la Tour du Valat, en fait, a acquis un grand domaine dans les années 50, puisqu'une partie est en réserve naturelle. Et puis justement, elle aura des permanents et accueille des stagiaires qui sont des étudiants en écologie, experts de la biodiversité, qui veulent se consacrer à la protection de l'environnement et qui passent une partie de leurs études ici à étudier justement le milieu naturel.
Lorsque l'on parle donc de développement durable ou développement soutenable, pour reprendre le terme plus précis, vous avez des formations aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Parce que vous voyez bien ce qui se passe. Est-ce qu'il faut être hyper spécialisé dans le développement durable? Dites-nous un petit peu quel est votre senti.
Moi, j'ai l'impression qu'il y a deux choses. Il y a ce qu'on appelait historiquement les métiers de l'environnement, qui existe toujours. Je crois que c'est évalué en France à 2% de l'emploi, donc ça fait quand même 400 000 personnes. Mais ça, j'ai pas l'impression que ce soit très nouveau, en fait. Et en gros, on est toujours sur un peu dans la lignée des témoignages qu'on a entendus, assez souvent, me semble-t-il, sur des jeunes qui veulent travailler au contact avec la nature, protéger les animaux, etc., travailler dans l'environnement, les parcs naturels, etc., et qui finissent la plupart du temps, pour la moitié, je crois, la moitié des emplois du secteur aujourd'hui sont dans la gestion des déchets et l'assainissement des eaux.
Oui.
Donc, une espèce de ce que vous évoquiez dans l'introduction, une espèce de petit décalage entre les attentes initiales et ce qui se passe ensuite.
C'est-à-dire qu'au lieu de s'occuper des ours, on va s'occuper des amibes dans l'eau, quoi, après.
Ouais, ça va être voilà. Un peu ça. D'accord. En quelque sorte. Et il y a une deuxième vague, entre guillemets, alors là, qui là est peut-être plus récente et plus en essor, sauf qu'en même temps, comme c'est une toute petite niche, c'est pas très important, c'est effectivement les métiers liés au développement durable, alors dans lequel on mettrait d'ailleurs l'environnement, mais aussi les aspects commerce équitable, etc. Et là, c'est beaucoup plus difficile à évaluer. Alors, ce qu'on évalue bien, c'est le boom des formations, notamment des formations complémentaires, ce qui me paraît toujours souhaitable de faire plutôt une formation complémentaire qu'une formation principale, parce que c'est pas un métier à proprement parler, ça va être une compétence en plus.
Attendez, ça, je crois qu'il faut qu'on l'entende bien. Parce que c'est quand même un message qui est important, c'est-à-dire qu'on ne va pas forcément recruter un jeune aussi brillant soit-il sur sa seule connaissance du développement durable, mais pour vous, ces formations, on va dire, initiales et en développement durable en formation complémentaire.
Oui, parce que les postes qui vont être 100% dédiés au développement durable, déjà, il n'y en a quasiment pas. Il y a quelques postes de consultants, quelques postes de responsables développement durable dans les entreprises, qui généralement d'ailleurs sont donnés plutôt à des gens de l'interne qui connaissent très bien l'entreprise. Donc par contre, ce dont on va avoir besoin de plus en plus plus ces démarches vont progresser dans les entreprises et souhaitons qu'elles progressent de plus en plus vite, on va avoir besoin de gens au marketing, donc qui ont des formations marketing, qui connaissent ces sujets-là, de gens aux achats, qui sachent intégrer des critères éthiques, sociaux, environnementaux au cahier des charges qu'ils donnent à leurs fournisseurs, des gens qui sachent travailler sur la conception des produits, par exemple, en intégrant les aspects environnementaux, sociaux, etc. etc. Donc on va plus avoir besoin de gens qui ont finalement les mêmes métiers qu'avant, mais avec une très bonne connaissance du développement durable, de ce qui change à leur domaine de compétences.
Et Jérôme Valina, c'est ce que vous constatez aussi ?
Oui, avec, je crois, même si ça ne plaira pas à tout le monde, on va dire une évolution au niveau économique dans notre pays, avec l'ère industrielle qui est en train un petit peu de passer, et puis l'ère des services et des services aux services. Et dans ce secteur-là, il y a énormément de choses à développer, à créer, avec notamment une forte polyvalence et polycompétence des profils, puisqu'il y aura des services sur les territoires permettant à la fois la valorisation valorisation soit de production locale. Enfin, je vois des filières plantes aromatiques se développer.
Qu'est-ce que c'est? Bah, c'est intéressant. Donnez-nous des informations là-dessus.
Alors, toujours pareil, si on fait un focus, on va penser que ça va faire un appel d'air. Tout le monde va vouloir y aller.
Non, mais c'est parce que ça nous plaît. Vous voyez, voilà, c'est ça. Mais oui. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il va y avoir 10 000 emplois là-dedans. Hein,
voilà, donc, on est bien d'accord. Il faut toujours bien penser à ça. Voilà, il y a des emplois, mais il faut se bouger pour être parmi ceux qui sont recrutés. C'est ceux qui ont le profil et qui se bougent, qui très tôt définissent leur projet. C'est bête à dire, mais il faut le dire parce que c'est comme ça que ça se passe aussi.
Oui,
ça, oui. Les emplois tombent pas dessus comme ça. Moi, je suis très sensible à tout ce qui est nouveaux services en milieu rural, hein, aux personnes, mais aussi sur les territoires. Et sur les filières plantes aromatiques, il y a des enjeux multiples qui sont à la fois valorisation de la biodiversité. Hein. Moi, je suis dans le sud, en Méditerranée. Mm-hmm. Le romarin, des plantes comme ça, c'est peut-être pas la peine de les importer. Et on peut peut-être revaloriser certaines zones, entre guillemets, en déprise rurale, et puis créer de l'emploi local, et ne pas se priver de faire de la coopération internationale aussi à ce niveau-là, pour produire des hydrolats, tout ce qu'on veut comme produits dérivés des plantes aromatiques et médicinales. Et je pense que là, il y aura une diversité de métiers, de fonctions, hein, à la fois au niveau botanique, sans doute, recherche, chimie, commercialisation, démarche qualité, hein, faire du management dans les entreprises pour bien gérer le personnel, ça commence par ça aussi, le développement durable. C'est valoriser l'homme, hein, le développement durable. S'il n'y a plus d'hommes, ce n'est pas la peine de s'occuper de la nature. À mon avis, c'est un peu radical. Hein,
mais... Non, mais vous avez le droit d'abord de l'être, et simplement, effectivement, on fait partie nous-mêmes de cette nature, qu'on n'est pas une essence forcément supérieure, mais voilà, en tout cas, c'est vrai qu'un territoire sans hommes, de toute façon, ça ne va pas être la même chose. Alors, et puis Pierre Châtelon, tenez, effectivement, notre jeune qui a envie de rebondir, donc en deuxième année d'AgroParisTech.
Oui, je pense que je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Jérôme Valina. Ce qui est intéressant dans les métiers de la protection de l'environnement, c'est leur diversité et le fait que dans tous les secteurs en fait, de la vie, dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on produit, on peut mettre de l'environnement et on peut mettre du développement durable. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Il ne s'agit pas que tout le monde se jette sur telle ou telle filière, mais vraiment de réfléchir dans chaque métier à donner une touche verte qui soit plus qu'une communication, mais réellement un progrès.
Oui, alors on est bien d'accord parce qu'évidemment, il y a toujours un certain nombre de nos amis auditeurs qui disent « Ah, développement durable, effectivement, marketing, etc. et tout ». On parle du vrai, pas du développement durable.com, avec quand même les clés de base du développement soutenable. On est plus de 6 milliards et demi aujourd'hui sur cette planète. Qu'est-ce que l'on va faire demain si on continue de toute façon à produire et consommer comme on le fait? On va dans le mur, on le sait, on ne veut pas l'entendre, mais c'est quand même ça la réalité du monde. Donc ça veut dire que ça passera par des formes de décroissance, par des formes de sobriété, de toute façon, ce sera ça. Pierre,
oui. Voilà, et rien que le fait que la population augmente et que la population va continuer à faire comme avant, implique que les comportements vont être modifiés.
Oui.
Il y aura toujours de la consommation, mais il y aura une consommation différente. Et c'est là que le développement durable doit permettre aux 9 milliards d'humains de demain de consommer et de vivre.
Eh ben on le souhaite, ça pas simple, mais je veux dire que c'est notre défi, je jure à tous, dans ce 21e siècle naissant, en tout cas c'est notre défi. Je vous propose de faire un petit tour, tenez, ben on va descendre, on va aller dans les Pyrénées, vous allez comprendre pourquoi, parce que là nous avons en ligne une femme qui s'occupe d'un segment tout à fait intéressant aussi, Pierrette Parent-Domergue, bonjour.
Bonjour Denis.
Vous êtes enseignante au lycée Saint-Christophe. Nous sommes à Saint-Pé-sur-Nivelle, au Pays Basque. On n'est pas très loin de Saint-Jean-de-Luz, en fait.
Voilà, on est à une dizaine de kilomètres de Saint-Jean-de-Luz et 6 kilomètres de la frontière espagnole.
Voilà, et donc vous aviez toute votre place dans cette émission consacrée aux études et à l'environnement parce que vous avez des formations en quoi?
Alors, on a des formations en aquaculture, donc production aquacole, et des formations nature-environnement.
Alors, qu'est-ce que c'est, plus précisément?
Alors, ce sont des formations qui vont de la seconde à la licence professionnelle. Mmh. Et nos élèves font des études sur les espaces naturels, sur la protection de l'environnement, sur l'animation également, la sensibilisation du public aux problèmes liés à l'écologie, la nature, l'environnement.
Vous avez donc 200 élèves au total.
Voilà.
De quoi sont composés les cours?
Alors, il y a de l'enseignement général, hein, évidemment. Ensuite, il y a un enseignement professionnel. Donc, pour l'aquaculture, on a une pisciculture expérimentale qui se trouve sur le domaine de l'INRA, donc à Saint-Pé. Mmh. Donc, ils font des TP, ils font de la reproduction, de la ponte. Ils travaillent également sur le repeuplement des cours d'eau. C'est essentiellement sur la truite fario, hein, ici.
Gestion de la faune sauvage, qu'est-ce que l'on
fait?
Alors,
gestion de la faune sauvage, on apprend à reconnaître les oiseaux, hein, la reconnaissance ornithologique. On fait des études sur l'habitat des espèces, sur les écosystèmes. on travaille sur la conservation, l'aménagement des habitats. Je peux vous donner un exemple. Ils ont également travaillé sur des garennières, c'est-à-dire réaménager l'habitat de la pomme garenne.
Alors, la suite de tout ça, qu'est-ce qu'ils deviennent ensuite en sortant?
Alors, voilà, il y a les BTS et les licences professionnelles. Donc, en fait, le lycée, il est un petit peu comme un tremplin. C'est-à-dire qu'au départ, ils rentrent donc, après la troisième, en seconde, et puis ils peuvent poursuivre jusqu'à la licence, s'ils en ont la volonté, s'ils en ont les capacités. Mais de toute façon, ils ont, dès le départ, le goût pour la nature. Donc, en fait, ils vont après travailler dans tous les métiers de l'environnement. Ils peuvent travailler dans des musées, dans des aquariums, travailler sur la migration d'espèces. Donc ça, c'est pour la partie aquaculture. Travailler sur l'entretien et l'aménagement de milieux aquatiques. Ils peuvent travailler aussi dans la production, c'est-à-dire en ostréiculture, en pisciculture.
Vous avez déjà du recul? Vous avez donc déjà des jeunes qui sont placés, hein, bien sûr.
Oui, bien sûr. D'ailleurs, on a organisé la journée portes ouvertes du lycée le 4 avril.
Que vous organisez, oui.
Voilà, chaque année. Et on avait à peu près 25 professionnels qui étaient tous des anciens. Donc qui allaient du technicien jusqu'à l'ingénieur.
Et vous avez même des gens aussi à la Ligue pour la protection des oiseaux, à LPO.
Voilà, alors on a en fait un animateur nature qui est spécialisé dans le pernoptère, c'est le JPAET
en
fait.
C'est JPAET.
Voilà, et qui fait de l'animation dans les écoles, enfin bon voilà, qui a été embauché par la LPO.
Pierrette, quel est le taux de réussite après? Donc ces jeunes sont employés à combien? Je ne sais pas, 50, 70%, 80% tous
Moi je pourrais dire à 80%. Après, souvent ils ne s'arrêtent pas chez nous, ils font des licences professionnelles par la suite, puisqu'il y en a même qui font des écoles d'ingénieurs. En tout cas, tout ce qui est métier de l'environnement, pour moi, c'est l'avenir. Voilà.
Merci à vous, Pierrette Parent, puis à très bientôt.
À bientôt, Denis.
Alors, simplement, c'est pas un petit bémol, mais juste, on le rappelle, hein, que les métiers directement, protection de la nature, gestion de la faune sauvage, ça va être 4-5% des offres aujourd'hui, hein, c'est pas plus. Donc, comme on dit, ça fait joli dans le décor, mais c'est pas forcément la majorité de l'espèce. On poursuit ce voyage avec nos différents invités, donc au pays des métiers et des formations, après Victor O.
Revolution caribéana, fuck nous de bouteilles salouillées. One nation pour petit pays, levez la main pour Caribbean people. Revolution caribéana, fuck nous de bouteilles salouillées. One nation pour petit pays, levez la main pour Caribbean people.
Aïe, yeah. Maladie nous comme ça. Y en a trop le mystique en la nuit, passe en la nuit, nous trapper, liberté nous, pour y éclairer, plus douvant chemin, nous c'est des dopes, conquérants, faut que nous tournons conquistador, si nous pas payer rien, personne peut que s'arrêter nous, si nous ça dit hasta la victoria siempre,
révolution caribéana, faut que nous tout bouteille saluer. One nation pour petit pays, levez la main pour Caribbean people. Révolution caribéana, faut que nous tout bouteilles saluer. One nation pour petit pays, levez la main pour Caribbean people. Non, nous pas moun qui caplere en les contre pas contre d'autres moun. Ça fait que mène nous bien loin au pas amour. C'est là nous pour marcher de main dessous. For nous united pour nous control. Nous c'est des top et conquérants. Faut que nous tournons conquistador. Faut que nous casser gêne pour libérer l'esprit nous. Tant pour souffrance, c'est pas fatalité. Révolution caribéana, faut que nous tout bouteilles saluer. One nation pour petit pays, levez la main pour Caribbean people. Révolution caribéana, faut que nous tout bouteilles saluer. One nation pour petit pays, levez la main pour Caribbean people.
Fire in a Babylon. We are the children of the lion. We are ready for revolution. Just on the Caribbean sun. Fire
in a Babylon. We are the children of the lion. We are ready for revolution. Just under Caribbean sun. Fire in a Babylon. We are the children of the lion. We are ready for revolution. Just under Caribbean sun. Children of the lion, we are ready for revolution. Just under Caribbean sun.
Oui, je pense qu'on était plutôt aux Caraïbes, hein, c'est ce qui me semblait, avec un peu de révolution, un peu de petit pays. C'était donc Victor O sur France Inter, CO2 Mon Amour, avec sous les yeux différents ouvrages, hein, Travailler pour le développement durable aux éditions Studirama, L'étudiant a sorti Les métiers de l'environnement. Et effectivement, c'est très vaste, architecte paysagiste, acousticien, éco-conseiller, météorologiste, technicien forestier. Un métier pour ma planète et surtout pour moi, donc livre d'Elisabeth Laville avec Marie Balmain. Elisabeth, qu'est-ce que vous voyez actuellement? Donc vous évoluez, il y a quand même des secteurs forts, certains ont été boostés bien sûr par le Grenelle de l'environnement, celui du bâtiment est quand même quelque chose où on voit bien que ça se met en ordre de marche.
Oui, notamment, alors c'est vrai au niveau international, hein, il y a une étude de l'Observatoire international du travail en octobre dernier qui disait déjà que juste dans les pays occidentaux, la rénovation écologique des bâtiments allait générer 2 à 3,5 millions d'emplois verts supplémentaires. Et 20 millions en plus, d'ailleurs, dans les énergies renouvelables, dont une partie sont aussi liées au bâtiment. Non, ce qui est clair, c'est que sur la construction, on a des gros défis, puisqu'aujourd'hui, le secteur représente encore 40% de notre consommation de ressources, 40% des émissions de CO2 au niveau mondial. C'est un peu moins en France avec le nucléaire. Et 40% des déchets, donc il y a beaucoup à faire. Et on n'a pas fait énormément. Et il y a, issu du Grenelle... Alors, en plus, on a les deux leaders en France, hein, les deux leaders mondiaux, qui sont Bouygues et Vinci. Donc, on est plutôt bien placé en théorie pour bénéficier de ces créations d'emplois. Et à ça s'ajoute donc, issu du Grenelle, des défis colossaux, puisque aujourd'hui, si on parle que des bâtiments neufs, alors qu'il y a une grosse partie des défis qui sont aussi sur les bâtiments existants, qui représentent en gros 9 bâtiments sur 10. Mais enfin, si on parle que du neuf, aujourd'hui, un bâtiment neuf, d'après la réglementation, il doit être à peu près à 150 kWh du mètre carré par an. En 2012, il faut qu'il soit à la moitié de ça, c'est-à-dire 50 kWh du mètre carré par an. Donc dans 5 ans, hein, mais un peu moins, même maintenant, 3-4 ans.
Et puis ce métier va bénéficier, une fois que la formation, parce que le problème il est bien là, les techniques on les a, on sait qu'elles sont déjà existantes, donc oui. Là-dessus tout va bien. Bon, après il y a la mise en place des produits, parce que si vous avez un bon produit et qu'il est mal posé, ça ne sert à rien. Donc c'est vraiment là que les choses se passent. Mais donc on a la pression de la réglementation qui est importante, et aussi l'opinion publique. Donc tout ceci converge, on va dire, vers un mieux-être dans le domaine du bâtiment.
Ça converge si il y a un investissement des pouvoirs publics, notamment à travers les plans de relance, etc. Et là, il y a quand même des petits sujets d'interrogation,
bah oui.
parce que les plans de relance sont pas aussi verts que ce qui devrait être, à mon sens, et ce qu'on aurait attendu. Et en tout cas, ils sont pas aussi verts que ce qu'il faudrait pour atteindre ces créations d'emplois. Donc si les plans de relance suivent, et puis surtout si les entreprises suivent, c'est-à-dire si on n'est pas sûr du développement durable à la marge de l'activité, auquel cas vous n'avez pas vraiment besoin d'engager du monde, de créer des nouvelles compétences, etc. Mais si vraiment on intègre ça au cœur de l'activité en changeant le modèle économique et l'offre, pas à la marge avec un ou deux produits verts, mais vraiment si vous décidez de changer l'ensemble de ce que vous vendez, à ce moment-là, vous avez des chances d'avoir vraiment besoin de nouvelles compétences, de nouveaux profils, etc.
Alors là, on n'en est pas encore là, mais donnez-nous l'exemple de Philips,
si on prend des exemples d'entreprises qui sont déjà là-dedans, Philips, effectivement, s'est engagé en 2007 en disant, en 2012, donc ils se sont donnés 5 ans, en 2012, 30% de notre chiffre d'affaires viendra de produits verts. Donc 30% du chiffre d'affaires, c'est énorme. Hein. Aujourd'hui, sur la plupart des marchés, l'offre alternative, elle est péniblement à 1 ou 2%. Donc 30% d'un chiffre d'affaires, c'est énorme. Ça veut dire un produit sur 3 vendu par Philips sera un produit vert. Donc ils ont beaucoup travaillé sur ce que ça veut dire un produit vert. Mais du coup, l'intérêt, c'est que toute l'entreprise s'oriente pour atteindre cet objectif et que d'ores et déjà, quasiment toutes les innovations qu'ils ont lancées depuis leur engagement dans cette démarche sont des produits verts. Donc, là,
donc ça veut dire qu'il y aura des nouveaux métiers, qu'il y aura obligatoirement un management différent, qu'il y aura donc des embauches qui seront différentes.
Mais ça veut dire que c'est vraiment un projet d'entreprise et que vous êtes obligé du coup d'avoir des gens qui comprennent ce que c'est que l'environnement et le développement durable au marketing, à la conception des produits, à la fabrication des produits, dans les équipes de vente, à tous les niveaux dans l'entreprise. Et là, du coup, vous avez besoin de gens qui ont fait ces formations éventuellement complémentaires à des formations commerciales ou d'ingénieurs.
Juste un mot sur Marks & Spencer aussi, qui est en train de changer.
Marks & Spencer, même chose, 2007, un gros plan qui s'appelle le plan A, en disant avec humour, parce qu'il n'y a pas de plan B pour changer pour sauver la planète. Et le plan A, c'est quoi ? C'est Marks & Spencer se donne 5 ans pour généraliser l'offre responsable. Donc avoir plus que du thé, du café bioéquitable, du coton bioéquitable, des teintures écologiques, des œufs non issus d'élevage industriel, à la fois dans les boîtes d'œufs, mais aussi dans les pâtes aux œufs, les flans aux œufs, etc. Et du coup, ce qui est intéressant, donc là encore projet d'entreprise, et ce qui est intéressant, c'est qu'ils disent le premier effet bénéfique de cette démarche qu'ils ont lancée en 2007, c'est justement en termes de capacité, d'attractivité, j'allais dire, auprès des candidats au recrutement, que ce soit des jeunes diplômés ou des gens qui cherchent des postes de cadres dirigeants. Les gens ont plus envie de travailler pour Marks & Spencer depuis que ce projet a été lancé.
Jérôme Valina, donc peut-être effectivement avec tout ce que vous avez entendu.
Oui, j'aurais aimé en fait revenir sur la question de l'orientation au départ, parce qu'effectivement, il y a une diversité de métiers, de formations. Donc, j'ai pointé un peu des questions clés à se poser et à poser aussi aux responsables de formation pour choisir. Dans le premier temps, le travail sur soi, j'allais dire, en essayant de qualifier l'activité recherchée en termes de secteur. Est-ce que c'est l'eau, les déchets, la botanique, etc. Mettre des mots-clés, ça me paraît important pour déjà commencer à cerner un petit peu le secteur où on voudrait intervenir. Dans le même temps, essayer de savoir comment on voudrait intervenir. Est-ce que c'est du conseil, de l'étude, ingénierie, de la production, de la communication, de l'animation, de la vente? Parce que ça, tout ça, ce sont des fonctions qui se rapportent à des domaines et il faut un petit peu travailler les deux en parallèle en fonction de sa propre personnalité qui va évoluer au fil du temps. Je m'adresse à des jeunes aussi. On n'est pas obligé de savoir aujourd'hui, à l'instant T, ce qu'on veut faire dans 20 ans.
Ben non,
surtout pas.
De toute façon, on ne le sait pas. Donc,
voilà, on ne le sait pas. Ou des fois, on croit le savoir, ce qui n'est pas forcément mieux. Il faut se laisser du temps aussi. Voilà, il faut rêver les pieds sur terre dans le monde des hommes, comme je dis. Et aussi garder à l'esprit qu'il n'y a pas de linéarité dans la formation métier. Et c'est encore plus vrai dans les formations de l'enseignement supérieur où pour intervenir dans un master d'ingénierie écologique sur Montpellier, on voit qu'avec le même master d'écologie, on peut avoir des métiers assez différents dans des structures très très différentes. Donc ça veut dire que quand même le système est ouvert et que la formation a un rôle, le diplôme, ça pèse sur un CV, mais le recrutement, il se fait sur le savoir-être, sur vos compétences complémentaires, la nature de vos stages.
Non, mais ça, c'est intéressant, parce que ça veut dire que c'est pas forcément... Bon, le diplôme, évidemment, compte, on va pas se le cacher
absolument,
en France, hein, loin de là.
Oui, oui.
Bon, mais je veux dire que quelqu'un qui a envie de bosser, qui a une bonne sensibilité, peut aussi faire son trou, même s'il a moins d'études derrière lui en poche ou...
Bien entendu, d'ailleurs, on a beaucoup d'autodidactes, moi je crois beaucoup à ça, et puis il y a la formation tout au long de la vie, il faut pas l'oublier, comme ça a été dit. Se former, vous êtes pas obligé de tout apprendre à la fac ou dans une grande école ou dans votre lycée en BTS. Vous apprendrez déjà dans votre métier sur le terrain. Et puis, il y a la formation continue. D'ailleurs, il y a beaucoup d'argent là-dedans. Donc, il faut en profiter quand vous serez salarié, de demander des formations pour vous améliorer et acquérir de nouvelles compétences parce que ça bouge. Tout bouge au niveau normatif, au niveau des comportements. Donc, voilà, ça fait partie du plan de développement personnel.
Et donc, ça bouge aussi dans les formations. Tenez pour preuve, on va faire un petit tour du côté d'Angers. On va rejoindre Suzanne Deshoux, que connaît très bien d'ailleurs aussi Elisabeth Laville, qui intervient régulièrement elle aussi dans cette émission. Suzanne Deshoux, bonjour.
Bonjour Denis.
Vous êtes médecin de l'habitat et vous êtes d'ailleurs aussi responsable pédagogique de ces risques en santé dans l'environnement bâti à l'Institut supérieur de santé et des bioproduits d'Angers. Alors de quoi s'agit-il s'il vous plaît?
Alors voilà, c'est un nouveau master qui a été habilité en 2008 par le ministère de l'enseignement supérieur. Il cherche à former, à donner une formation pluridisciplinaire pour que dans le bâtiment, l'aspect sanitaire soit pris en considération, qu'il n'y ait pas que les aspects énergétiques qui soient pris en compte dans le bâtiment.
Donc on va choisir, apprendre à choisir ces matériaux par exemple ?
Exactement, puisque c'est justement très difficile d'avoir une idée de l'impact sanitaire des matériaux. C'est un des thèmes, c'est pas le seul. Il y a aussi l'impact sanitaire des équipements, de l'implantation, de la végétalisation. Les thèmes sont très larges.
On rentre avec une licence.
Alors, on rentre avec une licence, c'est un master. On peut faire un master 1 avec une préspécialisation, et c'est surtout le master 2 qui est dédié à l'approche des risques sanitaires dans l'environnement bâti.
C'est une licence qui est très ouverte ?
Très ouverte, puisqu'on accueille des personnes qui sont issues de formations biologiques, santé, mais aussi du bâtiment, de l'ingénierie de l'environnement, même des juristes, parce que c'est, on a besoin de cette approche pluridisciplinaire pour la programmation, la conception, la mise en œuvre, la maintenance et l'entretien des bâtiments.
Ça se passe en alternance, c'est-à-dire qu'on est sur le terrain ?
Alors, voilà, c'est une formation très professionnalisante. Elle est en alternance sur un an, 17 semaines de cours, 24 semaines de stage, donc 6 mois, en agence architecture, en collectivité locale, chez des promoteurs, des constructeurs, en milieu hospitalier, c'est très varié.
Qu'est-ce que l'on devient donc après ça à la sortie ?
Alors en fait, c'est un nouveau métier d'ingénierie en stratégie santé du cadre bâti et urbain. C'est-à-dire que c'est une compétence nouvelle au sein des équipes qui tournent autour du bâtiment.
On peut rentrer chez qui ? Alors, je ne sais pas, ça va être quoi ensuite des architectes, des maîtres d'œuvre ?
Voilà, oui, agences d'architecture, bureaux d'études, collectivités locales.
Bien sûr.
Des agences d'architecture et d'urbanisme des collectivités locales, chez des constructeurs. Et ensuite, on peut aussi le prolonger par un diplôme technologique de recherche, de recherche technologique plutôt, un DRT, et qui est là un véritable emploi formation sur des projets innovants. Alors là, c'est Bac+5+6. Et là, c'est très intéressant pour l'entreprise et pour l'étudiant. Là, c'est du gagnant-gagnant. C'est une préinsertion professionnelle. Donc, on a un thème nouveau et je pense qu'il connaît un certain engouement.
Et puis, Suzanne Déhoux, ça fait partie d'un thème qui vous est cher et que l'on voit monter en puissance. Et bien évidemment, vous savez longtemps, qui est santé et environnement.
Et voilà, santé et environnement bâti encore plus précis.
Merci à vous, Suzanne. À bientôt.
Merci, Denis. Au revoir.
Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away, I wonder this time where she's gone. Wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no home. Anytime she goes away, and I know, I know, I know, I know. Sunshine when she's gone, only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no home. Anytime she goes away, anytime she goes away.
Bon, c'est un classique. Mais oui, c'est absolument un classique, bien sûr. Jérôme Valina, vous écoutiez tout cela merveilleusement. Peut-être focus sur 3-4 métiers qui vous semblent un peu porteurs.
Oui, dans le génie écologique, donc on est formation Bac+5, hein, niveau ingénieur. On s'attend au métier classique, on va dire, de naturaliste ou spécialiste faune-flore. Donc, on a effectivement du recrutement dans ces domaines-là, hein, dans des bureaux d'études, dans des associations. Mais aussi certaines formations qui développent un petit peu la polyvalence des diplômés.
Alors, juste un tout petit point, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le génie écologique.
Oui, on va dire que c'est un spécialiste des experts et milieux naturels, faune, flore, qui est capable de, à la fois de préconiser, on va dire, de faire des recommandations pour restaurer des milieux dégradés, hein, naturellement, ou par l'homme aussi, des sites dépollués, qu'il faut dépolluer pour créer des activités, restaurer par exemple des mines ou des carrières en faisant des zones d'activité loisirs. loisirs ou avec des écosystèmes peut-être un peu particuliers, se démarrent temporaires, des choses comme ça. Donc c'est des gens qui sont experts des milieux montagnards, littoral, méditerranéens, tropicaux, avec des spécialisations comme on a entendu au tout début de l'émission, en agro ou en écologie tropicale.
Moi, voilà. Je voudrais juste rappeler une chose, parce que j'ai vu ça vraiment en potassant différents articles, c'est que les filières qui préparent aux métiers qui préviennent les risques et qui luttent contre les pollutions, parce qu'on a fait tellement de conneries de toute façon qu'il faut évidemment dire, mais c'est comme ça la réalité. Hein. Bon, ça, le libéralisme va vous expliquer que c'est pas grave, on a pollué d'un côté, mais on va donner de l'activité en dépolluant de l'autre. Enfin, bon, donc la prévention, c'est des mots qui n'existent pas. On est dans le curatif. Mais ça fait pas un tabac, je dirais, chez les étudiants. Et pourtant, c'est là qu'il y a le plus de débouchés.
Oui, c'est vrai. En fait, j'ai l'impression que la nature, il y a le côté un petit peu le mythe de la nature Adam et Ève, où les gens veulent être loin des hommes et au plus près des oiseaux et de la nature. Par contre, tout ce qui est le côté pollué, déchets, même les déchets,
bien sûr,
a
oui,
très mauvaise relation culturelle aux déchets. C'est quelque chose qu'on veut effacer de suite. Donc, c'est des métiers qui sont malheureusement complètement dévalorisés. Et c'est, moi, je trouve
alors
ça.
Pas complètement, ça remonte un peu plus, mais en tout cas, c'est vrai que ça n'a pas forcément très bonne presse. Quoi.
Voilà. Ouais. Alors que.
Ouais. Alors, génie écologique, vous me disiez, effectivement.
Donc, des exemples de personnes qui ont le même diplôme, hein, de former en écologie, on va dire ingénieur écologue. J'ai des exemples concrets d'une personne qui est chargée de mission dans une collectivité. Elle s'occupe du développement d'un agenda 21. Qui est un ensemble, on va dire, un catalogue d'actions.
Alors, qui émane, on le rappelle, des Journées de la Terre de Rio, donc en 1992, et qui sont, les agendas d'ailleurs, sont des déclinaisons locales de Rio en 92.
Voilà, donc on peut travailler avec une formation comme ça, de génie écologique, sur des postes comme ça. Et évidemment, votre cursus va jouer, hein, les stages, etc., hein, parce qu'il faut avoir travaillé dans des collectivités, ça va être un atout pour l'entretien. Idem, il y a un chargé de mission agenda 21 à l'Université de Montpellier.
Pardonnez-moi, vous faites bien de le rappeler, petite digression, mais importante, parce que souvent il y a des postes qui sont réservés à celles et ceux qui ont plusieurs années d'expérience professionnelle. Mais les stages, les fameux stages finalement qu'ils n'ont pas payés, oui. Non, mais c'est quand même aussi important d'avoir aussi ce genre d'activité. Hein, donc,
C'est crucial, hein, faut pas tout attendre du diplôme, hein, faut vraiment aller sur le terrain, pas hésiter à naviguer, hein, professionnellement, aller dans des structures, même si on croit qu'on n'apprend rien, on apprend toujours la culture de l'organisation et c'est important. Ça vous donnera des clés pour les entretiens d'embauche.
Elisabeth Laville, alors peut-être un dernier petit point. Sans dire qu'il y a forcément beaucoup d'appelés et peu d'élus, que l'offre de formation évidemment s'adapte aux nouveaux besoins en matière d'environnement, mais que l'embauche de tous les diplômés n'est pas encore au rendez-vous, qu'est-ce que l'on peut dire ?
Moi, je pense qu'il y a un point là, sur lequel vous reveniez, qui est qu'en gros, ça dépend aussi de chaque. Enfin, c'est à chacun de prendre son. Non pas son diplôme en main, mais en tout cas l'acquisition d'expérience en main. C'est-à-dire qu'on évoquait les démarches de campus responsables dans les grandes écoles, les universités. Bah, d'une certaine façon, nous, et une des choses qu'on recommandait dans le bouquin, c'est si vous avez envie de bosser sur le sujet, pendant que vous êtes sur le campus, université, etc., où vous passez, prenez la démarche de l'université en main, parce que ça vous donne une expérience. De fait, qui au moment de trouver un boulot va être au moins aussi précieuse que le diplôme.
Ça va être votre propre laboratoire, quoi.
Mais exactement, mais exactement. Tout ce que vous pouvez faire, enfin, je veux dire, il y a des ONG, des gens comme Greenpeace, les Amis de la Terre, etc., font appel à des bénévoles et ils leur donnent pas toujours des tâches subalternes, pas intéressantes, etc. Et encore une fois, sur un CV, moi je vois même nous chez Utopie, quand on recrute des consultants juniors, on en a recruté une il n'y a pas très très longtemps. Qui a passé 9 mois en tant que bénévole chez Greenpeace, ben ça a au moins autant joué que ses diplômes.
Merci à vous deux. Peut-être alors un petit mot, Brice Lemaire, effectivement vous aviez commencé, donc jeune diplômé, qu'est-ce que vous attendez donc maintenant ?
Maintenant je suis ouvrier agricole et du coup j'ai le temps pour continuer à chercher du travail, mais voilà, je suis toujours disponible et je cherche un travail en agri-environnement.
Vous avez un beau CV, peut-être Pierre aussi, juste un petit mot aussi.
Peut-être juste pour dire qu'il ne faut rien s'interdire, pas hésiter à aller vers des formations qui ne sont pas les plus attirantes, on va dire, et c'est souvent celle qui offre le plus d'emplois maintenant.
Alors, beaucoup d'informations hein, sur le site, grâce à Anne Gouzon, cyberdocumentaliste de CO2 Mon Amour. Vous avez plein de choses, plein de pistes. Il ne s'agissait pas de tout balayer, c'était absolument impossible, on le sait très bien. Simplement vous donner effectivement ce qui est possible, ce peut-être ce qui l'est moins aujourd'hui, ne pas forcément se tromper. En tout cas, merci à tous nos participants et donc à la semaine prochaine. semaine prochaine qui sera différente parce que ce sera à la fois fête de la nature, fête du jardin, on parlera de bio. Je vous emmènerai aussi, on va parler de biodiversité sur un terril. Oui, un terril du Nord, le 11-19 pour ceux qui connaissent. On ira faire un petit tour là-haut. Merci à Anne-Laure Cochet, à Elisabeth Collet, à Sophie Le Doré, à Jean-Christophe Pinaza, à Maïté Adam qui a réalisé cette émission, Emmanuel Chupin qui a donc programmé les disques. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. La Tulu Bon Petit Loup, ce sera demain à 19h55 après les petits bateaux. Et dans quelques instants, eh bien, ce sera Fabienne Chauvière avec Olivier Saventurier.